à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laure Honoré. Laure Honoré, bonjour.
Bonjour.
Laure Honoré, vous avez 34 ans, vous avez 4 enfants. Vous êtes jeune, avec déjà une famille nombreuse. Vous êtes rattaché à la paroisse de Balmain, sans habiter exactement Balmain. Mais vous avez déjà, malgré votre jeunesse, eu beaucoup d'expérience, d'engagement auprès des plus défavorisés. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle tous les deux pendant cette petite demi-heure. Vous avez en effet travaillé dans deux associations remarquables, une qui s'appelle Miséricordia et l'autre, plus connue de nos auditeurs sans doute, c'est l'association Lazare. Alors je voudrais qu'on revienne sur ces deux thèmes et notamment que vous commenciez par me dire d'abord ce qu'est cette association Miséricordia, qui est relativement récente en France, qui est une association internationale. Association dans laquelle vous avez travaillé, travail salarié, 2 jours par semaine. Donc, quelle est leur mission? Comment ça marche? Qui a créé ça?
Alors, Miséricordia, c'est une association qui a à peu près 10 ans, je dirais, qui a été fondée par Romain et Réna de Châteauvieux. Donc, Romain qui est français de Marseille et Réna qui est brésilienne. Et avec leurs enfants, ils ont fait un tour de l'Amérique latine pour finalement être appelés à s'installer dans les quartiers défavorisés à côté de Santiago du Chili. Donc ils se sont installés ici dans un quartier très 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 pauvre du Chili. Et pour alors leur maître mot, Miséricordia, c'est compassion et évangélisation. Donc c'est être une présence auprès des plus démunis. Donc voilà, ils ont monté un centre qui grandit d'année en année avec une très belle église au milieu du centre. Ils ont des volontaires français et chiliens qui viennent les aider. Et puis ils sont présents auprès des femmes enceintes, auprès des enfants, auprès des personnes de la rue, dans ces quartiers.
Et donc, vous me dites, il y a deux maîtres mots, compassion et évangélisation. Évangélisation, j'imagine que c'est pour transmettre le message d'espoir de l'Église.
Exactement.
Mais alors, ils travaillent sans doute en relation avec les paroisses.
Oui, c'est ça. Ils sont. Alors aujourd'hui, ils sont même reconnus. Comment on dit, dans l'Église, ils ont vraiment un statut dans l'Église locale.
Oui, c'est pas, lui n'est pas diacre, j'imagine,
Noël,
mais ils ont quand même une reconnaissance officielle par l'Église au Chili.
Au Chili, oui.
Et en France?
Et en France, ça a été monté beaucoup plus récemment, ça a été monté ouvert il y a 4 ans à Aubervilliers. Donc ils sont au sein d'une paroisse. Et pareil, ils accueillent des personnes, les personnes les plus pauvres des quartiers, les enfants pour des animations, les parents, les mamans, voilà,
là,
les devoirs.
Toujours des couples.
Il y a un couple responsable de la mission, et ensuite il y a des jeunes volontaires à l'année, et il y a des jeunes volontaires qui ont un travail à côté et qui viennent s'engager aussi pour aider, surtout les week-ends, à faire des animations.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire c'est presque un point d'évangélisation, quoi.
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est admirable que nos pays qui ont fait tellement d'évangélisation dans le monde, dans les siècles passés, maintenant c'est le monde du Sud, les mondes des pays en voie de développement, c'est le Chili. Hein,
oui, ça a commencé au Chili.
Qui crée des missions en France. Donc l'histoire est en train de se boucler d'une certaine façon et je trouve ça admirable. Et vous donc, qu'est-ce que vous faisiez précisément dans cette association?
Alors moi, je m'occupais de la partie administrative. Donc en fait, je m'occupais de la partie ressources humaines, je m'occupais de la partie des donateurs, relations avec les donateurs, la partie plutôt administrative, secrétariat, etc.
Donc c'est une association dans laquelle on peut faire des dons.
Exactement.
C'est ça.
Oui.
C'est défiscalisé, j'imagine.
C'est défiscalisé.
Ils doivent être reconnus d'utilité publique.
Pas d'utilité publique, c'est une association catholique.
C'est une association catholique, mais c'est défiscalisé.
Mais c'est défiscalisable, exactement.
Oui. C'est d'utilité publique, mais on va dire dans le principe.
Voilà.
Et donc c'est défiscalisable, non, c'est important pour, oui. pour nos auditeurs de le savoir. Et donc il y a effectivement, c'est du bénévolat, mis à part quelques salariés dont vous avez fait partie.
Exactement.
C'est du bénévolat, c'est des gens qui donc ont besoin d'avoir un logement, j'imagine, ou comment ça se passe concrètement?
En fait, c'est des gens qui ont un logement, ouais. mais qui viennent pour des animations, pour de l'aide aux devoirs, pour des conférences.
Et donc ensuite, c'est dans la rue.
Et ensuite, ils font du porte-à-porte, exactement.
Ils font du porte-à-porte. Oui. Donc, ils n'ont pas un local à eux.
Ils ont un centre, mais ils font beaucoup de porte-à-porte. Tous les jours, quasiment.
Donc, c'est vraiment des missionnaires de rue.
Oui.
On peut les définir comme ça. Et il y a combien d'implantations? Vous nous avez dit que ça avait démarré à Aubervilliers, ensuite.
Alors, ça a démarré au Chili.
Au Chili. Mais en France.
Ensuite, à Aubervilliers, aux États-Unis, assez oui. récemment, et en Argentine.
D'accord. Et en France, il y a combien d'implantations?
Une seule. Aubervilliers.
Il n'y a qu'à Aubervilliers. Oui. À Toulouse, il n'y a pas encore.
Non.
Parce
pour l'instant.
Que vous étiez donc dans la région parisienne quand vous les avez connus.
J'étais déjà à Toulouse.
Vous étiez déjà
fait,
à Toulouse.
Ils sont venus faire une tournée à Toulouse il y a 5 ans et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Ils sont venus témoigner.
Et donc il y a un projet d'implantation à Toulouse ou pas?
Non.
Pourquoi sont-ils venus à Toulouse? Est-ce qu'ils reviendront?
Oui, alors ils sont venus parce qu'ils font une tournée normalement tous les 2 ans en France. Donc ils passent à Paris, ils passent à Nantes, ils passent à Lille. Voilà, ils font une tournée en France. Et ils sont passés à Toulouse pour la première fois il y a 5 ans. Et ils reviennent, effectivement, ils reviennent. Vous pouvez noter la date, le jeudi 26 janvier à 20h à la chapelle Sainte-Anne, qui est à côté de la cathédrale Saint-Étienne.
Jeudi 26 janvier, vous avez dit...
À 20h.
À 20h, chapelle Sainte-Anne.
Exactement. Ils reviennent pour une soirée de prière et de témoignage sur ce
qui est la chapelle. Mais enfin, je pense que beaucoup de nos auditeurs la connaissent, qui est la chapelle, qui est dans l'ensemble de la cathédrale. On rentre par la petite cour derrière.
Exactement.
Il faudra quand même faire savoir qu'il y a ça, parce que ça peut intéresser des gens. Vous avez prévu de communiquer sur le
revenu? Oui, on va commencer à communiquer. On va commencer là maintenant, justement, à communiquer sur cette soirée.
Je pense que Radio Présence pourra assumer Super. Sa part de communication pour faire savoir qu'il y a ça le 26 janvier.
Voilà, c'est Romain et Réna en personne qui font une tournée.
Les deux fondateurs qui
Exactement.
Font une tournée.
Et
ils n'ont pas implanté à Marseille non plus, parce que vous nous avez dit qu'ils étaient de Marseille.
Pas encore.
Mais ça va venir.
Peut-être.
Vous allez les aider à implanter à Toulouse, je le sens. Bon, la deuxième chose dont je voudrais que vous nous parliez, c'est l'association Lazare. Alors, tous nos auditeurs le savent, c'est évidemment le Lazare de Béthanie qui est... avec le fameux « Lève-toi et marche ». Donc, je trouve que c'est une très belle idée d'avoir à baptiser cette association Lazare, parce que ça donne cette idée de « relève-toi », quoi. « Relève-toi, sois digne », etc. Et donc, cette association Lazare a ça comme projet, c'est de donner aux gens une image positive d'eux-mêmes et de leur donner une stabilité pour que justement ils se remettent debout, ils se remettent en marche. C'est un peu ça l'idée. Donc vous avez été très actif pendant 3 ans dans cette association de Lazare à Toulouse. Expliquez-nous un peu comment ça marche.
Alors l'association Lazare, effectivement, on a été avec mon mari et mes enfants, famille responsable, pendant 3 ans à Toulouse. Comment ça marche? C'est des colocations solidaires, des colocations entre des jeunes actifs et des personnes qui ont été à la rue, qui ont connu la rue. Et nous, à Toulouse, on a une maison de 10 colocs, 10 hommes, donc 5 personnes qui ont connu la rue et 5 ce qu'on appelle jeunes actifs.
Voilà. Et dans les jeunes actifs, il n'y a pas d'étudiants? Si.
Alors, on peut prendre des étudiants en fin d'études. Étudiants en médecine qui n'ont jamais fini.
C'est long.
Mais effectivement, l'idée, c'est quand même, c'est une expérience qui remue. Donc, on prend des gens qui ont une certaine maturité, donc qui ont plus que 24 ans, oui. 24-25. Après, ça dépend forcément des personnes.
Mais... Donc, c'est plutôt des jeunes qui sont rentrés dans
la vie active. Des jeunes professionnels.
Ouais. Et qui ne sont pas en couple, en général.
Ah non.
Oui, c'est ça.
Oui, ils peuvent être en couple, mais en tout cas, il y a...
Donc, il y a un couple qui gère la maison, en quelque sorte.
Oui.
Ça, c'était votre rôle
Exactement.
Pendant 3 ans. Et ensuite, vous recrutiez, entre guillemets, 5, puisqu'à Toulouse, c'est 10, mais ailleurs, ça, c'est des nombres variables, 5 jeunes actifs, garçons, donc sans enfants, sans contraintes de famille, et 5 SDF. Comment sont-ils choisis?
Alors ça, le choix, c'est nous qui le faisons. Mais c'est souvent des associations partenaires, en fait, enfin des associations qu'on connaît, le Secours catholique, la Main tendue, ou sinon des assistantes sociales qui nous donnent... Enfin, quand on a une place, on les contacte et souvent, ils nous envoient des profils et ensuite, on les appelle, on les rencontre et voilà. On voit si on sent qu'eux seront heureux dans la maison et si nous, par rapport au profil qu'on a déjà dans la maison, on est capable de les accueillir ou non.
Oui, il faut quand même qu'il y ait un peu une osmose qui se passe entre ceux qui sont là et ceux qui arrivent.
Exactement.
Et donc, vous leur proposez quoi? Un gîte?
On leur propose le couvert, effectivement, ou... un toit.
Un toit.
Mais plus qu'un toit, on leur propose des relations d'amitié, de la bienveillance.
Ouais. Donc, une vie un peu familiale.
Exactement.
Un familial élargi. Et combien de temps les gens restent là en moyenne, les SDF, mais même d'ailleurs les autres?
Alors les jeunes actifs, ils s'engagent sur un an. Mm-hmm. Donc voilà, souvent ils font un an ou un peu plus, mais c'est quand même souvent un an. Et les personnes de la rue, il n'y a pas de durée. Les personnes de la rue, ils restent autant de temps qu'ils sont bien et qu'ils respectent les règles. Donc ça peut aller de 4 jours à 6 ans.
Oui, parce que j'imagine, à 6 ans,
on en a un qui est resté 6 ans, c'est pour ça.
Ah bon? Ouais. Ah oui, il était bien alors.
Oui, il était bien.
Et est-ce que vous avez un rôle d'insertion sociale ou économique pour eux, non? Ou...
Si, on a une assistante sociale à la maison qui nous aide pour essayer de les faire retrouver un travail. Parce qu'on sait que c'est par le travail qu'ils vont reprendre confiance en eux, qu'ils vont reprendre goût à la vie. Mais la première étape, c'est vraiment qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils se posent, qu'ils se reconstruisent avant de retrouver un travail. Mais effectivement, l'étape d'après, on va les accompagner pour retrouver un travail par les contacts qu'on peut avoir à droite, à gauche ou...
Ça passe souvent par de la formation, par des périodes de...
Ça dépend. Parfois, c'est des personnes qui ont déjà une formation. On avait un, par exemple, qui était pâtissier. Et en fait, c'est un jeune actif qui a vu une annonce dans un magasin. Je recherche pâtissier. Et puis, c'est comme ça que notre coloc a trouvé finalement un travail.
Donc, ça a marché.
Et ça a marché. Ouais. Exactement.
Là, ça doit être... Une grande satisfaction pour le couple qui gère la maison. Ces SDF, souvent, sont dans des addictions ou dans des habitudes de vie qui ne sont pas tellement faciles à gérer. Donc, comment vous faites là?
Alors, exactement. C'est pour ça que nous, on ne peut pas accueillir tout le monde non plus à l'hasard. On n'est pas... On n'est pas des médecins, on n'est pas là 24 heures sur 24 avec eux, donc on ne peut pas accueillir tout le monde dans nos maisons. Mais Lazare développe de plus en plus d'aides justement pour lutter contre les addictions. Et on a par exemple chaque maison a un responsable, a une ancienne personne qui est passée par l'addiction à l'alcool, qui nous aide justement pour savoir vers qui se tourner et qui accompagne nos colocs qui souffrent d'une addiction.
Ça fait partie des critères de choix, j'imagine, quand vous les retenez quand même, de voir des gens qui ne sont pas trop détruits.
Exactement.
Par l'alcool,
oui.
Ou par la drogue.
Quoi. Oui.
Ah, oui,
parce qu'on ne peut pas...
On ne peut pas prendre le risque, oui, parce qu'il y a quand même une vie en communauté. Il y a 10 personnes, plus votre famille.
Alors nous, nous à Toulouse, on a une maison à côté, oui.
Ah, vous n'êtes pas exactement dans la même maison.
Oui, non.
C'est une maison mitoyenne. Ouais. Et la maison qui accueille, elle appartient à qui? Comment ça marche?
Alors là, ça appartient à des sœurs, aujourd'hui. Mais chaque ville en France a des schémas différents. Parfois, c'est Lazare qui construit, Lazare qui achète, Lazare qui loue. Mais souvent, je dirais, c'est lié à des bâtiments qui appartiennent à l'église ou à des congrégations.
Et qui les mettent à disposition gratuitement?
Gratuitement ou... Ouais. Voilà,
est-ce qu'il n'y a pas une notion de loyer, même symbolique?
Alors si, les colocataires, tout le monde paye un loyer, la famille aussi, tout le monde est à la même enseigne en France. On a tous, les colocataires payent 320 euros de loyer, plus une participation aux frais pour la nourriture, parce que tout ça c'est commun. Donc la nourriture, ils payent 80 euros par mois, et donc avec tout ça, ils ont un toit et... De quoi faire leur machine et de quoi manger.
Et donc, c'est la maîtresse de maison. Vous, en l'occurrence, vous étiez un peu la maîtresse de maison.
Oui, là, j'étais un peu leur maman. Mais non, c'est pas moi qui gère ça.
C'est pas, comment
les cours, c'est eux.
C'est eux, ils se débrouillent entre eux. Vous leur donnez un petit coup de main, j'imagine, pour organiser les choses, non?
Non.
C'est pas évident. Ah non, ils se débrouillent.
Ah oui.
Et il n'y a jamais de friction.
Ah si.
Touche pas à mon beefsteak,
exactement.
Non?
Exactement. Ah bah, exactement. Surtout des hommes. La nourriture, c'est important. La viande, c'est important. Donc oui, c'est un des sujets qui revient souvent dans les sujets de conflit. Mais ça, c'est eux qui gèrent.
Ouais. Et vous, vous interdisez d'intervenir là-dedans?
Nous, en fait, nous, on va s'occuper de... Enfin, que tout le monde ait payé son loyer et tout le monde ait payé sa PAF, sa participation pour la nourriture. Et ensuite, c'est eux qui gèrent leurs courses. Ils ont une carte avec le budget pour le mois et c'est eux qui gèrent leurs courses et leurs... Mais effectivement, entre ceux qui ne sont pas là au déjeuner, ceux qui sont là au déjeuner, ceux qui sont là tout le temps, ceux qui ne sont jamais là... Il y a forcément des déséquilibres, mais c'est ça qui fait... C'est comme dans une vie de famille. Hein.
Oui, c'est comme dans une vie de famille, mais il y a des frictions, ça peut... La différence, c'est que dans une vie de famille, il y a une autorité, soit du père, soit de la mère.
Alors là, il y a un responsable de coloc.
Ah,
il y a un jeune actif qui est responsable de la coloc, effectivement.
Et c'est lui qui est chargé de dire stop.
Exactement. Ou nous. On pouvait aussi être amené à intervenir. Mais pour des sujets de nourriture, on les laissait gérer entre eux.
Et cette implantation Lazare, elle est où dans Toulouse, possible?
Alors, on est en haut de l'avenue Jean Rieux.
En haut de l'avenue.
Alors, c'est amené à changer parce qu'il y a un projet immobilier sur ce terrain. On ne sait pas encore précisément la nouvelle implantation, mais Lazare va a priori grandir et accueillir des femmes et plus d'hommes encore à Toulouse.
C'est du côté de la rue de les Miracles, hein? Non, c'est pas là.
Aujourd'hui,
oui.
On est au croisement du boulevard Del Tour, donc vraiment en haut de l'avenue Jean Rieux.
Oui, je vois. Et l'organisation de cette communauté là, c'est depuis combien de temps dans Toulouse? C'est vous qui avez démarré le truc?
Non, ça fait 7 ans à Toulouse. C'est un couple d'amis qui ont lancé le projet à Toulouse, qui sont restés 4 ans. Et nous, on a pris leur suite pendant 3 ans.
Donc, il y a 7 ans, 8 ans maintenant qu'il y a une association Lazare à Toulouse.
Exactement.
Et donc, il y a un couple qui a pris votre suite.
Oui.
Et qui, lui il a pas la maison d'à côté. C'est vous qui l'avez. Donc,
on a déménagé, nous.
Ah, vous avez déménagé.
Ah, oui.
D'accord. Donc, ils se sont installés comme
exactement,
vous à côté.
Exactement, ils ont pris notre place. Ouais.
D'accord. Et ils ont aussi une famille nombreuse.
Ils ont deux enfants, oui.
Ils ont deux enfants. Mm. Bon. Un jour ou l'autre, il faudra aussi que je les contacte pour savoir comment ça se passe. Pendant les quelques minutes qui nous restent, je voudrais que vous me parliez un peu plus de vous, de votre histoire de couple, parce que c'est forcément une histoire de couple de faire ça. Donc, il faut être deux, il faut embarquer à deux là-dedans. Et puis, vous avez 4 enfants, donc il faut embarquer à 6, en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter, sans dévoiler, hein, je ne vous demande pas des secrets de famille, mais comment vous est venue l'idée, comment ça...
Alors, effectivement, quand je travaillais pour Miséricordia, on avait rejoint une petite fraternité, un petit groupe lié à Miséricordia. Et Miséricordia demande, dans ses engagements, entre autres, d'avoir un engagement concret envers les personnes mises à l'écart de la société, quoi. Et là, on s'est dit avec mon mari, en fait, nous, on n'a pas d'engagement concret auprès des plus pauvres. Et de fil en aiguille, on a su que nos amis terminaient leur mission. On a déménagé aussi en face de la colocation Lazare, donc on venait plus souvent. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas. Donc, on a discerné en couple, on s'est demandé si c'était une bonne chose pour notre couple, pour nos enfants, pour notre famille. Et on s'est dit, allez, vas-y, on se lance dans la mission. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est vraiment une mission qui nous a beaucoup apporté dans notre couple. Parce que je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble. On n'a jamais travaillé ensemble, mais là, on avait à prendre des décisions à deux. On n'avait parfois pas toujours les mêmes avis. Et en discutant, on discutait beaucoup et on s'apportait mutuellement. Donc, c'était vraiment
parce que
très...
votre mari, lui, est cadre. Hein, il travaille dans l'agroalimentaire, vous m'avez
exactement.
Dit.
Exactement.
Donc, il a quand même des horaires, des machins, comme tout un chacun. Donc, il part tôt le matin, il rentre parfois tard le soir, etc.
Alors, il faisait beaucoup de télétravail, ce qui aidait beaucoup, parce qu'on pouvait du coup voir les colocataires sur l'heure du déjeuner, à des heures où on n'avait pas forcément les enfants, effectivement.
Ouais. Et alors, les enfants, eux, quel âge ils ont d'abord?
Alors, les enfants, notre aînée, elle a 8 ans, et notre dernière, elle est née à Lazare, elle a 1 an et demi. Donc elle est née quand on était à Lazare.
Ah ouais.
Donc les colocs ont beaucoup suivi cette naissance. Mais les enfants, ils étaient hyper heureux à Lazare. Ils avaient des colocs, un grand jardin, parce qu'on a de la chance d'avoir une belle maison avec un beau jardin à Toulouse. Ils avaient des colocs pour jouer au foot. Il y avait des soirées, parce qu'on fait des soirées portes ouvertes toutes les deux semaines. La messe aussi toutes les deux semaines. Donc ils avaient... Voilà, des personnes en plus de leur famille.
Et le côté SDF...
Ils ne voient pas les enfants.
Ils ne voient pas ça, mais...
En fait, c'est ça qui, je trouve, qui apporte beaucoup... Enfin, la présence de la famille apporte beaucoup dans les maisons Lazare, parce que les enfants ont cette naïveté qu'ont tous les enfants. Un jour, on a demandé à nos enfants, mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui étaient à la rue avant? Vous voyez lesquelles? Et puis, ils nous ont cité des jeunes actifs. Donc, vraiment...
Ah oui,
vraiment,
vous n'avez pas fait la différence.
Non, mais ça qui est beau.
Formidable.
Et les colocataires, nos colocs les adoraient, offraient des cadeaux, c'était aussi...
Oui.
Bon, il y en a qui ont des enfants et qui ne les voient plus, donc ça apporte
énormément. Et dans leur milieu scolaire, il n'y a pas... Parce que c'est quand même un rythme de vie, une ambiance familiale qu'ils ne rencontrent pas ailleurs, donc ça fait quand même des différences. Quand ils invitent des copains pour l'anniversaire, etc., tout ça, il n'y a pas de problème.
Oui.
Les parents ne sont pas affolés de voir tout ce monde...
Non. Nous, ce qui nous plaisait dans cette mission, c'était que nos enfants gardaient la même école, on gardait aussi nos amis. Alors, effectivement, on avait une mission en plus, notre vie sociale diminuait, etc. Mais nos enfants, ils ont une vie comme tous les... Enfin, ils avaient une vie comme tous les enfants normaux. Alors, effectivement, ils avaient des colocs en plus. Quand ils racontaient ça à l'école, c'était un peu bizarre. Moi, j'ai des poules et des colocs, bon. Alors, les maîtresses, souvent, je leur racontais...
Vous préveniez les maîtresses pour pas qu'il y ait quand même de... C'est quoi votre communauté?
Exactement. Mais du coup, on est venu en parler avec des élèves à l'école, dans les classes aussi.
Ouais. Vous étiez... Ils sont où?
Ils sont à Sainte-Thérèse.
Ah oui. Ouais. Vous êtes sur la colline là-haut, donc c'est
exactement,
pas...
Exactement, c'était pas loin de l'école.
Oui. Et alors, vous ne nous avez pas dit, vous avez une aînée qui a 8 ans,
oui.
Ensuite...
Ensuite, j'ai un garçon qui a 7 ans.
Oui.
Et une petite fille qui a 3 ans et demi, oui.
3 ans et
demi.
Une
dernière qui a 1 an et demi.
Trois filles, un garçon.
Oui.
Et tous épanouis dans cette ambiance d'accueil. Là... Pour qu'on comprenne bien comment ça marche, la moyenne d'âge des SDF que vous recevez est en rapport avec les jeunes actifs ou...
Non, ils sont plus âgés.
Ils sont plus âgés.
Oui, souvent, en tout cas, on a eu un jeune de 20 ans, mais c'est quand même rare dans les maisons Lazare. Souvent, c'est plus les personnes ont plus entre 40 et 50 ans.
Oui, et ça ne pose pas de problème d'avoir des...
Ils s'apportent mutuellement. C'est ça qui est beau, c'est que vraiment, les personnes de la rue qui sont du coup plus âgées ont peut-être un plus grand recul sur les choses, vont apporter des choses aux petits jeunes tout feu tout flamme qui arrivent. Et l'inverse, c'est vrai aussi. On a des jeunes qui étaient ingénieurs, informaticiens, voilà, et qui ont pu aider des colocs parfois dans des sujets plus techniques qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, c'est...
Oui. Il n'y a pas eu de conflit de génération, quoi, en quelque sorte.
Non, il y a parfois des groupes, effectivement.
Oui.
Des groupes.
Et puis des expériences de vie qui sont quand même tellement différentes que c'est pas toujours facile de communiquer, j'imagine.
Oui. Ouais. Mais c'est ça qui est riche.
Oui, c'est ça qui est riche. Et dernière question, parce que notre temps passe vite. Quelle est la paroisse de rattachement? Parce que j'imagine que vous avez quand même une paroisse privilégiée.
Non, on n'a pas de paroisse privilégiée. Par contre, on a un prêtre, le père Paul Roland Gosselin, qui est prêtre à Saint-Jean, à côté de l'Union.
D'accord.
Et qui, lui, était notre prêtre référent. Donc, lui fait partie aussi de notre conseil des sages. J'en ai pas parlé, mais on a des personnes extérieures à la coloc qui viennent, on les voit une fois par trimestre, qui viennent nous aider à prendre du recul, justement, sur les colocs, sur les problématiques qu'on peut avoir. Donc, il y a un prêtre, un chef d'entreprise, une psychologue,
oui, je crois
une assistante.
Philippe Chausson, que j'avais interrogé.
Exactement, faisait
partie
de ce qu'on appelle le conseil des sages.
Ouais.
Et donc, ce prêtre nous aide à ce niveau-là et vient dire la messe régulièrement quand on fait des événements ou toutes les deux semaines aussi, vient dire la messe dans la maison.
Est-ce que c'est un critère de recrutement pour les SDF, qu'ils soient catholiques ou chrétiens?
Non. Pour les jeunes professionnels, oui. Parce qu'on dit les lodes tous les matins, on a la présence réelle dans la maison. Donc on dit les lodes, puis il y a un temps d'adoration.
Ouais.
Donc les jeunes actifs, ça fait partie de leur engagement.
Ouais.
Mais pour les personnes de la rue, non.
Non. Et ils adhèrent
On les prévient, donc ils n'ont pas le choix.
Ouais. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de... Ils découvrent.
Non, on a même eu parfois des musulmans. On a... Non, on n'a pas... C'est...
Ça ne pose pas de problème.
Ça ne pose pas de problème, non.
Eh bien, écoutez, Laure Donoret, merci pour ce témoignage et merci surtout pour votre engagement pour les plus défavorisés parmi nous. Bravo à vous et j'associe évidemment vos enfants, vos quatre merveilleux enfants qui vivent ça de façon formidable et votre mari parce que c'est une histoire de famille.
Merci beaucoup.
Merci.